Voix nues. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Odile Deck. Ce soir, une jeunesse rebelle.
Bonsoir Odile Deck.
Bonjour Zoé.
Bonsoir Odile, merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre studio, le studio Odile Deck. On est dans le Marais, on a les bruits de votre agence derrière nous et une fenêtre ouverte sur un très bel arbre. Vous êtes architecte Odile Deck, dans une acception assez large de l'architecture. Vous faites aussi du design d'objets, vous êtes urbaniste dans l'âme et puis vous êtes l'une des rares femmes qui est aujourd'hui à la tête d'un studio d'architecture en France. Je crois que les chiffres varient mais on est autour de 10% de femmes à la tête d'un studio. Votre travail d'architecte vous a valu différents prix. Par exemple, évidemment, le Lion d'Or à la Biennale de Venise, c'était en 96 avec votre partenaire Benoît Cornette. En 2013, le prix des femmes architectes et l'International Architizer Award. Ça, c'était en 2017. Vous avez dirigé aussi l'école spéciale d'architecture de 2007 à 2012. Vous avez lancé votre propre école à Lyon, et je crois qu'elle arrive cette année à Paris, à partir de la saison prochaine. Alors parmi les bâtiments qui ont marqué votre carrière, je ne vais absolument pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais il y a la Banque Populaire de l'Ouest à Rennes, c'était dans les années 90, qui a lancé votre carrière. Le Frac Bretagne, l'extension du Macro à Rome, le restaurant de l'Opéra Garnier, le Fantôme à Paris, le Cargo à Paris, et puis toute une foule de grands bâtiments qui sont en livraison en Chine en ce moment. On vous connaît aussi parce que vous donnez beaucoup de conférences dans le monde entier. On vous a souvent parlé aussi, et on en parle toujours, et ça vous agace, je crois, de cette silhouette qui est la vôtre, silhouette noire, blanche, rouge, silhouette qui a beaucoup fait parler les journalistes. Je crois que ça vous a pas mal fatigué à une époque. On vous connaît aussi parce que vous défendez très souvent la place des femmes dans l'architecture. Vous pouvez aussi parfois fustiger une certaine tendance à personnifier l'architecte contre la star architecture. Et vous avez jeté un peu un pavé dans la mare en décidant d'ouvrir cette école qui enseignerait l'architecture un peu autrement. En préparant cet entretien, je me suis rendu compte que souvent votre nom déchaînait les passions. Alors Claude Parent, qui est architecte théoricien, qui je crois était proche de vous et qui nous a quittés en 2016, disait de vous « Ces vrais combats sont contre la mollesse architecturale et la médiocrité ». Cette image de rebelle, de femme particulière, de silhouette différente, mais surtout de rebelle, est-ce qu'elle vous plaît ou est-ce qu'elle vous fatigue aujourd'hui, Odile Deck ?
Mon problème, c'est que je pense que je suis née comme ça. J'ai commencé toute petite et je ne me suis jamais arrêtée. Et je me suis rendu compte que dans l'architecture, à la fois, ça me servait, ça me desservait. Mais ça me servait plus. Ça me servait plus parce que ça me permettait d'affirmer ce que je pensais, d'affirmer mes idées. Et quand ça me desservait, je me disais toujours que c'était parce que c'était des personnes qui n'étaient pas capables de me supporter, donc je ne pourrais pas travailler avec elles, c'était pas très grave.
Vous êtes comme ça depuis toute petite, ça fait partie aussi des choses qu'on raconte de vous. Vous êtes née à Laval.
Oui.
Dans une famille de 7 enfants.
Oui, au milieu d'une famille de 7 enfants, puisque j'étais le numéro 3. C'est vivre dans une petite ville qui a sans doute beaucoup de charme pour les gens qui y passent, sans doute beaucoup de charme pour beaucoup de gens qui y vivent. Mais moi, je me sentais dans un endroit trop petit. Et j'avais qu'une envie, c'était de m'en aller. Et c'est pour ça que, arrivé à la fin de mes études, enfin à la fin de mon lycée plus exactement, alors qu'on m'obligeait à redoubler ma première, j'ai, grâce à deux enseignants, réussi à passer mon bac en candidat libre et je suis partie. Voilà.
Mais dans l'enfance, vous vous intéressiez à quoi ? Parce que je sais que quand on est 7, il n'y a pas forcément de la place, de l'attention pour tout le monde. On fait un peu ce que font les autres enfants. J'ai lu par exemple que vos parents ne voulaient pas que vous portiez de jeans et que vous en fabriquiez vous-même. Dans votre enfance, est-ce que vous étiez déjà dans des choses du concret, de la fabrication, du plastique ou pas encore ?
Oui, bien sûr. Non, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été très bonne en couture, comme on disait. Parce que pour les filles, on leur apprenait la couture à l'école. C'était une discipline. Le dessin aussi, j'étais très bonne. Et c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup, que je faisais. Et j'ai même, effectivement, je faisais mes propres vêtements, puisque et j'avais pas le droit d'acheter certaines choses. Donc j'avais décidé de les faire moi-même. Et à ce moment-là, on pouvait plus m'empêcher de les mettre, puisque je les avais faites. Et en plus de ça, effectivement, je faisais beaucoup de dessins. J'avais même un prof de dessin quand j'étais au collège, qui avait trouvé un petit groupe de filles, parce qu'à l'époque, c'était encore des écoles de filles, qui se passionnaient pour l'art et à qui il donnait des conférences particulières. On était 5 ou 6. On allait chez lui avec sa femme et on discutait. On avait des présentations d'architecture, de sculpture, de peinture. Ça dépendait des jours. Et c'était formidable. C'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et je pensais m'orienter vers ça au départ. Parce que ne faut pas oublier que quand j'étais au lycée, à la fin de mon collège, il y a eu mai 68. Et que, évidemment, en tant que rebelle, je n'avais qu'une envie, c'était d'y participer. Et que mes parents m'ont interdit, m'ont enfermé bouclé dans ma chambre. Vraiment.
Et il se passait quoi en mai 68 à Laval, justement?
Il y avait quelques manifs, quand même. Faut pas croire, c'est pas si petit que ça. Il y avait quand même des manifs et moi, j'avais pas le droit d'y aller. À l'époque, j'avais pas le droit d'aller au café. On n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses, vous savez, dans les années 50-60, quand on était tout petit. Et donc, je voulais y aller. Donc, j'ai fait le mur, je suis partie. J'y suis allée une ou deux fois. Je me suis fait enfermer dans ma chambre. Et effectivement, donc, je n'avais plus qu'une envie, c'est de partir.
Vous m'avez dit aussi que vous avez eu une révélation avec les maths. Est-ce que c'est vrai?
Alors, j'ai toujours aimé les maths. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui, comme je ne dormais pas quand j'étais toute petite, comme pendant les vacances, m'apprenait les tables de multiplication pour m'endormir ou pour m'apprendre à faire des choses. Et donc, à l'âge de 3 ans, 4 ans, je savais la table de multiplication par 3, par 4, par 5. Et ça me semblait un jeu formidable. Et j'adorais ça. Et bon, ça ne suffit pas, mais ça m'a donné un attrait pour les nombres, les chiffres, la géométrie, le calcul, plein de choses comme ça. Et donc, j'aimais les maths. Et lorsque j'ai passé mon baccalauréat en candidat libre, évidemment, je ne pouvais pas faire un bac scientifique parce que j'avais pas la compétence, enfin, j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, j'ai passé un bac plutôt littéraire, mais qui était plutôt orientation mathématique. Et j'ai effectivement eu 15 au bac en mathématiques, ce qui était pour moi quelque chose d'étonnant, parce que je m'attendais pas à ça.
Donc, il y avait les maths, il y avait l'amour du dessin, et vous dites qu'à un moment donné, vous avez eu une épiphanie sur l'oral.
Quand on passe son bac tout seul, je l'ai pas eu à l'écrit. J'ai mis le droit au rattrapage. Et au rattrapage, le latin et les maths que j'avais ratés à l'écrit m'ont permis de passer d'avoir le bac, puisque j'ai eu 15 et 18, je crois, dans ces deux matières.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'épiphanie de l'oral? Est-ce que vous avez compris que vous aviez quelque chose, un charisme ou une aisance à raconter les choses?
Non, parce que je connaissais ces disciplines. Ces disciplines, j'étais pas trop mauvaise d'habitude. Mais le papier me gênait. Enfin, les exercices sur papier, j'ai toujours trouvé ça un peu stupide. Mais par contre, à l'oral, je savais que je pouvais me rattraper. Et donc, c'est là que j'ai effectivement peut-être conquis aussi les enseignants qui étaient en face de moi. Et sans doute, ça a joué. Peut-être. Mais c'est vrai que j'ai toujours été assez bonne à l'oral. Après, parce qu'après, quand les concours sont arrivés en France et qu'on avait des oraux, j'ai souvent gagné des concours à l'oral. Parce que je sais les défendre, parce que je sais m'expliquer, je sais faire comprendre aux gens de façon très très pratique, sans être forcément avec un langage compliqué, comment fonctionne un bâtiment, comment il peut être utile, comment il peut être bien et agréable pour les autres.
Vous passez ce bac en candidat libre, vous voulez partir, on l'a compris. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que vous imaginez faire?
Alors, à ce moment-là, pas le droit d'aller à Paris. La rebelle n'a pas le droit d'aller à Paris parce qu'elle serait une fille perdue. Je voulais faire à ce moment-là parce que je ne pensais pas que l'architecture était pour les filles puisque mon père m'avait déjà dit ça. Donc je voulais faire les arts décoratifs, mais pas le droit d'aller à Paris. Donc j'avais une amie qui partait faire de l'histoire de l'art et je suis allée m'inscrire avec elle en histoire de l'art à Rennes. Donc on m'a mis chez mes grands-parents pour que je sois sage. mais ce qui n'était pas désagréable parce que finalement ils n'étaient jamais là. Donc c'était formidable. Et puis je fais histoire de l'art et en même temps que je faisais histoire de l'art, je croise effectivement des étudiants de l'école d'architecture. Et là, évidemment, on devient ami, je vais à l'école, je découvre plein de choses, et je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire. Et comme j'avais quand même quelques contraintes, je dirais familiales, j'ai décidé de passer l'examen d'entrée, parce qu'à l'école de Rennes, à l'époque, il y avait un examen d'entrée, je l'ai. Et je rentre chez moi un week-end, et je dis, voilà, je fais architecture l'année prochaine, puisque je viens d'avoir l'examen d'entrée à l'école d'architecture. Et mon père me dit que c'est pas pour les filles, directement. Donc, très gentiment et très aimablement, il me propose de faire revenir un architecte à la maison pour déjeuner avec moi, pour que je puisse comprendre ce que c'était. Et alors que je savais un peu quand même, j'avais quand même compris un peu. Donc, ce monsieur vient déjeuner avec mes parents et moi. Il commence la conversation avec mes parents. Et puis, en plein milieu de la conversation, il se tourne vers moi et puis il dit « Mais alors, mademoiselle, vous voulez faire des études d'architecture? Et pourquoi faire? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire et tout ?» Et je réponds « Je voudrais faire un théâtre ». Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Et là, ça lui fait un choc et il dit « Ah oui, quand même, non, mais vous savez, c'est très très compliqué. Hein. » Et puis il se retourne vers mes parents et il dit « Voilà, bah, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est très bien maintenant que les jeunes femmes, les jeunes filles veulent venir faire des études d'architecture parce que comme elles ont un sens beaucoup plus pragmatique que nous, les garçons, elles seront très très bonnes pour dessiner dans nos agences les cuisines et les salles de bain. » Et j'ai fait « Je ne crois pas que ce soit ça que je veuille faire. » Voilà, et quand j'ai raccompagné à la porte, j'ai dit à mes parents, c'est un con.
C'est un con, mais est-ce que ça les a convaincus de vous laisser faire ou finalement vous l'auriez fait quand même?
De toutes les façons, ils n'avaient pas le choix, j'avais décidé de le faire, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas m'arrêter.
Alors cette unité d'architecture, on est donc après 68.
Oui.
Vous les avez fait ces études d'architecture et pourtant vous dites souvent que vous êtes autodidacte. Pourquoi est-ce que vous dites ça justement ?
Parce qu'après 68, moi j'ai commencé donc en 72. En fait, les écoles d'architecture avaient été complètement bousculées parce qu'il y avait les beaux-arts avant. Et après, il y a eu des écoles d'architecture. Donc l'école de Rennes aussi, c'était une école nouvelle. Et la personne qui la dirigeait, le mentor, si je puis dire, de l'école, était un Canadien qui avait décidé de renouveler complètement l'enseignement de l'architecture. Donc on n'avait pas le droit d'aller à la bibliothèque, on n'avait pas le droit de parler avec les troisième et quatrième années, les premières années. On n'avait le droit que de faire de l'expression corporelle, de la vidéo, des photos, du dessin, des choses comme ça. C'était un peu particulier. Mais en même temps, c'était très libre. Mais à la fin de la première année, je me disais, mais je ne sais pas ce que je sais faire maintenant. Deuxième année, ça continue. Et je me dis, mais c'est peut-être pas ça les études d'architecture quand même. Parce que, non, ce qu'il m'avait dit quand même à la fin de ma première année, c'est qu'il ne voulait pas me la donner parce qu'il pensait que je n'étais pas capable de faire des études d'architecture. Lui aussi. C'est que ce monsieur m'a dit, parce que pour faire l'histoire de l'art, l'année d'avant, il fallait que je fasse une licence de lettres. Donc j'étais inscrite en licence de lettres et je continuais. Et il m'a dit, écoutez, c'est simple, si vous continuez à faire une licence de lettres en même temps que vos études d'architecture, vous ne les aurez jamais. Donc, maintenant que vous êtes en architecture, on ne vous donne pas votre première année, puisque vous avez fait autre chose et que vous n'avez pas suivi, ce qui n'était pas vrai. Et donc, on attendra la deuxième année pour vous donner votre première année. Donc, à la fin de la deuxième année, j'ai eu ma deuxième année, donc il m'a donné ma première année en même temps. Et là, j'ai dit, je pars à Paris, parce que je pense que c'est qu'à Paris que je pourrais apprendre vraiment à faire des études d'architecture. Donc là, j'ai décidé d'annoncer à mes parents à nouveau que je m'en allais et que j'allais me débrouiller toute seule et que c'était pas la peine de venir d'essayer de m'aider. Je monte à Paris. J'avais un prof que j'avais vu en histoire de l'art qui faisait l'enseignement de l'architecture à l'université, qui habitait Paris, qui enseignait, qui était quelqu'un d'assez important dans l'histoire de l'architecture et qui m'a conseillé d'aller voir deux écoles pour voir, compte tenu de ce que j'avais fait avant, il m'a dit qu'il faut que tu as deux types d'écoles parce que toutes les écoles étaient très très différentes. Donc je suis allée voir une très libre, qui était au Beaux-Arts et qui s'appelait UP6 à l'époque, qui ensuite est devenue la Villette, et une autre qui était plus tenue, qui s'appelait UP numéro 4. Donc je vais voir l'UP numéro 4, et là je me rends compte que ce que les étudiants avaient fait en première et deuxième année, moi j'avais même pas fait ça. Le prof me dit sur un ton un peu hautain comme ça, que si je savais pas faire ça, je pourrais pas entrer en troisième année. Moi j'avais pas l'intention de passer de retour en première année, donc je me suis dit c'est pas celle-là. Donc l'autre qui était très libre, je me suis dit c'est celle-là. Et donc je me suis retrouvée au Beaux-Arts, à UP6, avec comme enseignant ceux qui avaient fait la Révolution en 68.
Donc Roland Gastreau,
par exemple, Grimbach, Le Dantec. Et en fait, ils ne venaient pas toujours au cours. Moi, j'avais besoin de travailler. Je suis retournée voir cet enseignant qui m'a dit, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un pour écrire avec lui, etc. Donc je vais voir cet architecte qui, lui, faisait plutôt la théorie de l'architecture.
Philippe
Boudon. Et qui découvre que j'avais fait, dans le cadre de ma licence de lettres, de la linguistique, et qui me dit, ça m'intéresse. Moi, je veux te connaître, Benveniste, Chomsky, tous ces gens-là. Je ne les ai pas lus, vous m'expliquerez, vous les lirez pour moi. Mais je dis, formidable, moi je veux bien. Parce que lui faisait ses bouquins de théorie. Et en même temps, la plupart de ses bouquins après ont été co-signés avec. Et il y a mon nom dessus maintenant. Donc je suis rentrée travailler chez lui et j'y suis restée 3 ans et demi pendant toute la fin de mes études. Il faisait de l'architecturologie. Voilà. Et c'était un grand privilège parce que du coup, j'ai lu beaucoup de bouquins, de livres. J'ai fait toute mon histoire de l'architecture grâce à ça. Et en même temps, je voyais passer dans son bureau, parce que c'était quand même quelqu'un qui était assez connu malgré tout dans le monde de l'architecture, même international à l'époque. Je voyais passer beaucoup de gens qu'on connaît maintenant, qui passaient là. Des gens, des Américains, d'autres personnes, parce que tout le monde s'intéresse, était intrigué par ce monsieur qui faisait
de l'architecturologie.
Voilà. Et donc, je les voyais passer. Moi, j'étais la petite dans le coin, mais je les voyais passer.
Donc, c'est une formation sur le tas, mais pas en agence. C'est ça l'idée.
J'ai pas du tout été en agence. Et bien qu'entre ma troisième et ma quatrième année, je suis allée faire un stage dans le sud de la France chez un architecte danois qui rentrait en France après l'opéra de Sydney. Il était le chef d'agence de Jörg Utzon à Sydney. Et quand Jörg Utzon a été mis à la porte, parce que l'opéra n'en finissait pas, par le gouvernement, lui, comme il avait une femme française, il est venu s'installer dans le sud de la France. Et donc je lui avais écrit, j'ai trouvé une place de stagiaire chez lui pendant un mois, où j'étais avec plein d'Américains, d'étudiants américains. Et c'était formidable, j'allais en Solex, j'avais descendu mon Solex. J'allais en Solex sur les petites routes et j'allais chez lui travailler toute la journée. Mais on se travaillait, en même temps on discutait avec tous les Américains, c'était formidable. Et j'étais entourée surtout des maquettes et des dessins de l'opéra de Sydney, ce qui était absolument fascinant. pour moi.
Qu'est-ce que vous regardiez dans ces maquettes-là ?
C'était le geste, c'était la façon de dessiner, c'était la façon artistique de développer un projet et non pas juste un plan, et parce que je savais pas trop encore ce que c'était, comment ça se faisait l'architecture. Mais c'était pas juste des plans et des coupes comme on fait normalement. C'était vraiment des gestes architecturaux, des gestes de dessin, des envolées artistiques et tout. C'était très très beau et ça m'a totalement fascinée. J'avais aussi une autre histoire qui est que pendant ma première année d'architecture à Rennes, c'était les débuts de la Maison de la Culture. Les fameuses maisons de la culture, et la salle de Rennes a été une des premières avec celle de Grenoble, et sont passées dans cette maison de la culture en exposition Parent et Virilio avec la fonction oblique. Paul Virilio et Claude Parent, qui présentaient leurs maquettes, leurs projets, et qui faisaient des conférences. Et moi, j'étais absolument fascinée par ça.
Donc, pourquoi? Pourquoi justement?
Parce que ça me fascinait.
Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau?
Non, mais je dis pas que c'était quelque chose de nouveau, je découvrais. C'est plutôt la découverte. Certes, on m'avait montré dans mes conférences au collège ce que c'était que l'architecture, mais on m'avait montré des bâtiments, alors que là, c'était une pensée, c'était une réflexion, c'était une façon d'envisager l'avenir, c'était des choses différentes. Et ça me fascinait complètement, c'était de la découverte. Parent et Virilio, Hudson, enfin, c'était pas rien quand même comme préalable, si je puis dire, à mes études. Et puis en même temps, quand j'étais à UP6, à Paris, après, donc à partir de ma troisième année, comme je le disais, les profs n'étaient pas souvent là, parfois pas. Comme on pouvait organiser son cursus de l'année, comme on voulait son planning. Moi, j'avais réussi à condenser tous mes cours en deux jours, de 9h du matin à 10h du soir, parce qu'ils faisaient des cours jusqu'à 10h du soir. Et le reste du temps, je travaillais chez Boudon. Et puis ça me suffisait pas. Je faisais aussi babysitting et puis je faisais plein de choses. Je mangeais pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais je vivais bien et j'étais heureuse de faire ça comme ça. Oui. Et c'était une école incroyable. Et en même temps, j'avais aussi un ancien prof de la fac d'histoire de l'art, qui était le prof d'histoire grecque, qui avait acheté un appartement à Paris et qui m'a demandé de lui rénover son appartement, alors que j'étais qu'en troisième année d'architecture. Donc je fais le chantier d'apprentissage de rénovation. Et puis après ça, ça m'a donné d'autres. Et puis j'en ai fait 4 ou 5 de la troisième à la cinquième année. Donc je faisais en même temps ça aussi. Donc j'étais déjà multicarte à l'époque.
Déjà multicarte et avec des appréhensions complètement différentes. La
Absolument.
Théorie avec Philippe Boudon,
Absolument.
Rénover des appartes.
Et j'ai appris en même temps ce que c'était que de le métier direct sur le tas, et qui n'était pas uniquement le dessin, mais vraiment fabriquer, travailler, discuter avec les entreprises, faire réaliser des choses comme ça.
Oui. Voilà. Parce que les fameuses, on va dire, les outils techniques de l'architecture, on va en reparler évidemment quand on parlera de la manière dont aujourd'hui vous avez envie d'enseigner l'architecture, ça vous les avez appris comment ?
Sur le tas, complètement. J'ai tout appris sur le tas. C'est pour ça que je dis que je suis un peu autodidacte, parce que ce soit dans mon école de Rennes ou dans mon école de Paris après, je passais le minimum de temps dans mes études et je passais le maximum de temps à faire autre chose. Mais qui n'était pas nul pour mes études, ma propre formation. Donc c'était utile. Donc c'est pour ça que je dis que, mais par exemple, comme je n'avais pas de cours de perspective, ou s'il y en a eu, je ne les ai pas vus passer. un jour, un prof nous a demandé de faire une axonométrie, je ne savais pas faire. Donc je vais
perspective axonométrique, c'est
voilà.
Ça.
Donc j'arrive le matin à l'agence chez Boudon, parce que Boudon était au milieu d'une agence d'architectes, et je vais voir une des filles qui travaillait là-bas et que je connaissais bien, avec qui j'étais amie. Je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait une perspective axonométrie? Donc le soir, elle me dit, bon, écoute, à la sortie, je t'expliquerai. Donc elle me fait un petit cours, je rentre chez moi le soir, j'essaye des trucs, le lendemain matin, je reviens, je lui dis, j'ai pas réussi, regarde ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai appris tout ça comme ça, j'apprenais par moi-même, quoi.
Génial.
Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire la même chose avec les étudiants, on peut les aider à apprendre par eux-mêmes, parce que c'est fondamental.
Qui y avait avec vous dans cette fameuse UP6? Qui vous avez rencontré? Ça a donné quel type de profil, justement, ces fameux débuts de l'UP6, devenus ensuite la Villette?
Alors, je ne les ai pas tous rencontrés. Je ne les ai même pas vus. J'en ai même pas rencontré beaucoup, parce que je n'ai passé pas beaucoup de temps. Parce que j'arrivais à tout condenser en deux jours, puis c'était très intense, à peu près. Mais j'ai constaté après, beaucoup plus tard, surtout au début des années 90, lorsqu'il y a eu la fameuse exposition à Paris à l'Institut français d'architecture des 40 en dessous de 40, que sur ces 40 en dessous de 40, qui n'étaient pas tous tout seuls, mais quelquefois en groupe, 60% des jeunes architectes de cette époque-là sortaient de cette école-là. Cette école étant tellement, allez, on va le dire, bordélique. On était 1500 ou 2000. Les profs n'étaient pas tout le temps là. Ils venaient là, mais on discutait, mais on débattait et tout. En fait, pour survivre et pour s'en sortir, il fallait se battre. Il fallait y arriver, il fallait le vouloir. Et il fallait trouver d'autres solutions et des solutions. Et grâce à ça, tous ceux qui sont devenus architectes, 60% étaient les jeunes architectes de moins de 40 des années 90. C'est quand même épatant, non? C'est pour ça que ça me questionne en permanence sur l'enseignement. ma propre formation.
Dans votre propre formation, vous l'avez dit, il y a tous ces apports théoriques. Il y a des bâtiments qui vous marquent. Vous parlez de l'Opéra de Sydney. Je sais que vous citez beaucoup Le Corbusier. Des bâtiments non. qui, à l'époque, vous... Non, non, pas beaucoup, mais la chapelle de la Tourette.
Ah, vous en avez parlé plusieurs fois. Beaucoup plus tard. J'ai découvert beaucoup plus tard, quand j'étais déjà architecte, après 10 ans ou 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus, par une amie qui habitait Lyon et qui, un jour, je vais voir pour faire, parce que j'avais une réunion là-bas. On déjeune ensemble et elle me dit, écoute, Odile, tu connais pas la chapelle de la Tourette, je t'emmène. Donc, elle m'emmène. Et c'est vrai que je suis restée tétanisée quand je suis rentrée là. J'ai eu l'impression, je suis restée presque 5 minutes sans bouger. J'ai eu l'impression que j'étais devenue minuscule et j'étais face à un espace incroyable. Après, je suis retournée plusieurs fois parce que j'y ai même emmené mes étudiants de l'école de Lyon. Mais j'ai jamais voulu re-rentrer dans cette chapelle parce que je ne voulais pas perdre cet effet, cette impression-là qui était très forte.
Et alors à cette époque-là, quand vous terminez cette formation à la fois totale, on va dire, vous avez envie d'être quel genre d'architecte ? Est-ce que c'est ça que vous vous posez comme question ? Est-ce que vous savez ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on ne peut pas le savoir. Et donc, comme je disais, je faisais mes petits chantiers d'architecture intérieure. Donc, j'avais quelque part déjà ma propre agence, même si ce n'était pas une agence. Et j'ai décidé de continuer. Et j'ai immédiatement improvisé une agence d'architecture par moi-même. Et j'ai décidé que je n'irais jamais travailler chez un architecte.
Pourquoi ça ?
Parce que tout le monde me disait tout le temps qu'il fallait aller chez les hommes. Que comme j'étais une fille, il fallait que j'aille chez les garçons. Ben non. J'ai dit non. Et j'ai dit, ben voilà, je pense que j'ai la capacité. En plus, ça, il y avait très peu de boulot. À l'époque, quand on sortait des années 70, à la fin des années 70, puisque j'ai passé mon diplôme en 78, c'était quand même le contre-coup de la crise du pétrole. Donc, la construction s'était un peu arrêtée. Il n'y avait pas de travail. Donc, puisqu'il n'y avait pas de travail, autant travailler pour soi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, j'ai pris mon petit cartable, enfin, mon petit sac, et je suis allée voir soit des amis de mes parents, soit d'autres personnes, des mères, qui me disaient toujours, mais ma petite mademoiselle, vous feriez mieux d'aller travailler chez un architecte. Je dis, mais c'est moi l'architecte. C'est très compliqué. Et ça a pris beaucoup de temps. Enfin, toutes ces choses-là, j'en ai eu beaucoup, des rebuffades comme ça, des réponses comme ça. Mais j'ai jamais lâché.
Il y avait d'autres filles avec vous, dans cette fameuse UP6 ? Aujourd'hui, on sait qu'elles sont majoritaires, les filles. On va à la fois en reparler.
Dans les écoles, oui.
Dans les écoles. Mais à l'époque, est-ce qu'il y en avait ou pas ?
Pas si nombreuses que ça. Non, on était moins nombreuses. On avait surtout, ce qui était incroyable aussi dans cette école, c'est qu'on avait beaucoup de Grecs et beaucoup d'Iraniens.
Comment ça se fait ?
Parce que les Grecs, c'était à cause des colonels. Absolument, donc ils avaient fui. Et les Iraniens, c'était aussi à la... Voilà, donc c'est pareil. Donc on avait des groupes entiers de gens qui étaient énormément de Grecs et d'Iraniens dans l'école. Et c'était mais en même temps, c'était formidable. C'était multilingue, c'était une espèce de tour de Babel. Ça se passait aux Beaux-Arts, dans la cour des Beaux-Arts, et on était tous heureux là-dedans.
On va en reparler évidemment, mais vous êtes encore aujourd'hui assez proche de plusieurs artistes. Je sais que chez vous, vous avez beaucoup d'œuvres d'art. Je sais que vous avez ce lien que vous avez gardé avec le dessin. Est-ce que vous avez senti que cette fameuse proximité avec les Beaux-Arts apportait quelque chose ou à l'époque pas du tout ?
Pas vraiment à l'époque, parce qu'on était, nous les architectes, ça terrorisait un peu le monde des Beaux-Arts. Et je sais que lorsque le ministère a gardé quand même une école d'architecture dans l'école des Beaux-Arts, ça se mélange pas beaucoup, en fait. Et pour avoir moi-même enseigné à la Kunstakademie à Düsseldorf, qui est donc l'école des Beaux-Arts de Düsseldorf, moi j'ai voulu créer des liens avec les ateliers des artistes et c'était très compliqué.
Pourquoi ça, selon vous ?
Je ne sais pas, il faudrait peut-être le demander aux artistes. On va le dire comme ça.
À cette époque-là aussi, vous rencontrez Benoît Cornette, je crois, avec qui ensuite, en 85, vous allez fonder une agence. On en parlera sans doute demain.
Qui vient me rejoindre dans mon agence, plus exactement.
C'est ça.
Parce que lui faisait des études de médecine.
Et comment ça se fait qu'un médecin se soit intéressé à l'architecture, justement ?
Ah, c'est une autre histoire, ça, encore. C'est parce que lui aussi n'avait pas eu le droit de faire des études d'architecture et qu'il s'était entendu avec ses parents sur les études de médecine. Et puis après, à la fin des études de médecine, il a voulu faire architecture. Et moi qui pensais être avec un médecin qui pourrait m'aider à vivre, eh bien, c'était pas possible. Il a fallu que je l'aide à faire des études d'architecture.
Justement, Odile Deck, entre le moment où Benoît Cornette vous rejoint en 85 et que vous fondez ensemble cette agence ODBC, et le moment où vous êtes sortie de vos études, il y a tout ce moment où vous le dites, vous travaillez un peu toute seule comme ça sur le tas. Comment est-ce que ça s'organise ? Avec qui vous travaillez ? Comment vous développez des liens aussi avec des personnes très importantes pour les architectes qui sont... les ingénieurs, même si à ce moment-là, je ne suis pas sûre que vous travaillez déjà avec eux.
Non, parce que je fais surtout à ce moment-là des rénovations de maisons, des extensions de maisons. Je travaille sur... je fais des petits projets, parce que c'est la seule chose que je trouvais. Et il n'y avait pas forcément besoin d'ingénieurs. J'apprenais aussi avec les entreprises, parce que quand je faisais mes chantiers, c'était je faisais en sorte d'arriver, d'être sur les chantiers et de, quand je comprenais pas quelque chose ou quand je savais pas quoi faire, je posais des questions aux entreprises et pour les faire parler et comprendre comment il fallait faire. Et c'est ça qui me permettait d'apporter les réponses. Donc c'est aussi un apprentissage sur le tas. Mais j'avais mon agence et donc j'ai commencé l'agence en fait. C'est moi la première. Ça c'est clair parce que Benoît à ce moment-là faisait ses études. Et puis ça a été aussi la période incroyable qui a été, et c'est particulièrement 79 et 80, où l'État a décidé de créer quelque chose qui s'appelait la mission pour la qualité des constructions publiques. La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, et qui en 79 et 80 a choisi, sur appel d'offres, plein de jeunes architectes qui sortaient des études pour les envoyer faire des missions dans les pays d'Europe et après au-delà, pour comprendre comment se passait la commande publique, parce que l'État voulait ouvrir la commande publique et arrêter les listes d'architectes qu'il y avait dans chaque ministère, pour ouvrir la commande publique aux plus jeunes, parce qu'ils avaient compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes sur le marché et qu'ils ne pouvaient pas accéder à la commande.
Aujourd'hui, ça nous paraît évident, la logique des concours, vous allez en parler, mais à l'époque, ça se faisait comment? Comment on choisissait les architectes?
Eh bien, quand on était dans un ministère, quand c'était un ministère, le ministère avait une liste d'architectes qu'il pouvait faire travailler. Et c'était tout. Un autre ministère avait une autre liste, etc., etc. La chance des architectes, c'est parfois d'être sur plusieurs listes, mais la plupart du temps, ils étaient sur une liste ou deux listes. Et puis, les mairies, elles faisaient avec les gens avec qui elles avaient l'habitude de travailler. C'est plutôt des habitudes. Et moi, j'ai eu la chance, après avoir demandé d'aller en Angleterre, d'avoir été envoyé en Allemagne, mais c'est comme ça, avec deux autres personnes. Et quand on est allé en Allemagne, on a découvert le système des concours en Allemagne. Et donc on a enquêté beaucoup, parce que comme on arrivait à missionner par l'État, l'ambassade nous a fait ouvrir les portes des ministères, des villes, des États, des régions, etc. Et on a enquêté et on a rapporté tout le système des concours d'Allemagne. Et à ce moment-là, le président de la mission qui s'appelait Bernard Tricot, le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot m'avait écouté quand je lui avais raconté l'histoire des concours, et il m'avait dit, écoutez, vous allez venir nous l'expliquer. Donc j'ai fait un article dans le Moniteur, j'ai fait des conférences publiques dans les ministères, j'ai fait plein de conférences sur le sujet, pour expliquer comment était le système des concours en Allemagne. Et c'est grâce à ça que la mission Tricot, après, parce que ça s'est appelé pendant un certain temps la mission Tricot, a réfléchi sur la façon d'organiser les concours en France, qui est devenue d'abord une directive pour conseiller aux organisations publiques, ministères, collectivités locales, etc., de faire des concours, et ensuite c'est devenu une loi. Mais ça a mis à peu près 10 ans, toutes les années 80. Et c'est grâce à ça qu'au milieu des années 80, commençaient à arriver les concours. Puisqu'il y avait sur le marché tous ces jeunes architectes, et pour les aider, l'État a lancé un certain nombre de concours pour des jeunes architectes, où devaient être sélectionnés obligatoirement des jeunes architectes, quelquefois simplement pour les jeunes. Mais il y avait eu aussi une autre chose qui était faite pour les jeunes dès 1975, qui était ce qu'on appelait le programme Architecture Nouvelle, qui avait été initié par le ministère de l'Équipement à l'époque, parce que nous étions à l'équipement, les architectes, et qui avait lancé donc le programme Architecture Nouvelle pour faire des programmes de recherche en France, qui après est devenu européen au niveau européen. Mais dans les années 70 et 80, c'était le PAN, puis les albums de la jeune architecture. Donc le ministère de l'Équipement à l'époque, dans les années 70, donc du temps de Giscard d'Estaing, avait initié toutes ces choses-là et avait permis, donc, grâce à ces albums de la jeune architecture, de repérer des jeunes architectes qui étaient diplômés et qui pouvaient participer à des concours. Et après, ça a duré jusqu'à toutes les années 80, et moi, j'ai eu les albums en 85. Et en 85, grâce à ces albums, j'avais été repérée comme étant de la région Ouest. Et c'est pour ça qu'après, en 88, si on veut faire le lien, lorsque la personne qui conseillait la Banque Populaire de l'Ouest pour l'organisation de son concours de bâtiment lui a dit que ça serait bien, parce qu'à l'époque ça se faisait de prendre des jeunes architectes, on pourrait regarder dans les albums. Et ils m'ont trouvé moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire le concours pour la Banque Populaire de l'Ouest.
C'est exactement de ça qu'on parlera demain. Merci beaucoup Odile Dec.
Je vous en prie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Odile Dec. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Fabien Gosset, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.